Alors, Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 29. Je vous propose de lire le texte ensemble pour ensuite nous pencher dessus. Car vous ne vous êtes pas approchés, comme les Israélites au désert, d'une réalité que l'on pourrait toucher. Un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges en fait. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Prenez donc garde. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour vous, pour nous, si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ce mot, une fois encore, signifie que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect, car notre Dieu est un feu qui consume. En 2004, j'ai rencontré aux Pays-Bas un marin français sur son voilier qui était amarré dans le port de la ville où j'étais. Il s'appelait Didier. Et sa passion, c'était la voile. Chaque été, il partait pendant un mois depuis le port de Boulogne pour parcourir la Manche, aller sur les côtes anglaises, remonter jusqu'en Belgique, aux Pays-Bas. Et il avait l'air vraiment d'aimer ça. Et puis en discutant un petit peu avec lui, on en est venu à parler du Seigneur. Et il s'est trouvé que, il m'a expliqué qu'il était en fait chef d'une entreprise qui fabriquait des gants en latex pour le domaine médical. Et en fait, il me racontait ça pour me dire à quel point son travail, l'usine qu'il faisait tourner, ne l'intéressait vraiment plus. Ce qui le passionnait, c'était la voile. Et on avait vraiment l'impression que s'il le pouvait, il aurait mis la voile pendant toute l'année pour ne plus revenir à son travail. Et c'est intéressant parce que combien de fois, lorsqu'on s'investit dans quelque chose, lorsqu'on se passionne pour quelque chose, peut-être que certains d'entre vous ont fait une collection de timbres quand vous étiez petit, ça dure hein, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et puis, au bout d'un moment, on se lasse, on connaît de la routine, on connaît de l'usure. Alors pourquoi cet exemple? Parce qu'en fait, on ne le dit jamais, et pourtant, on peut aussi se lasser de notre vie chrétienne. On peut aussi se lasser de connaître Dieu. On peut se lasser, tout simplement, des choses qu'on a découvertes au sujet du Seigneur et puis qui au fil du temps perdent de la fraîcheur, perdent de l'éclat et qui nous semblent finalement plus vraiment vivantes pour nous. Et en fait, l'épître aux Hébreux est écrit à des personnes qui sont dans une situation de lassitude. Ce sont des chrétiens qui ont fait une expérience avec Dieu, qui ont découvert qui était Jésus-Christ, mais qui ont besoin d'être renouvelés. Et regardez, juste au chapitre 12, au verset 3, l'auteur dit, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et puis au verset 12, il y a cette citation, « Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Il est fort probable que l'auteur des Hébreux s'adresse à des chrétiens qui étaient zélés, qui étaient motivés et qui ont perdu leur motivation. Des chrétiens qui réfléchissent même à revenir à leur ancienne religion juive. En effet, au moins dans le judaïsme, c'est une religion concrète qui ne promet pas de royaume céleste à venir, pour lequel dans le monde romain ça se passait pas trop mal à l'époque, et surtout, lorsqu'on était juif, on risquait moins d'être persécuté et de mourir pour sa foi que lorsqu'on était chrétien. En fait, ces personnes à qui l'auteur écrit ici sont certainement tentées de quitter le christianisme pour revenir au judaïsme à ses bienfaits visibles. Et ils sont en danger de laisser échapper les promesses de Dieu, de dériver loin des choses qu'ils ont entendues. Et c'est là où l'épître des Hébreux intervient et où ce passage nous semble particulièrement pertinent. Quelle solution l'auteur propose-t-il ici pour remotiver ces chrétiens auxquels il s'adresse? Alors regardez un exemple ici qui ressort mal à cause de la lumière, mais vous connaissez tous l'auteur de ces peintures, ou du moins vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit des séries de la cathédrale de Rouen, réalisée par Claude Monet à la fin du XIXe siècle. Et qu'est-ce qui est frappant dans ces tableaux? En fait, il a peint exactement le même bâtiment, avec le même cadrage, plusieurs fois. Et alors, qu'est-ce qui change? Et qu'est-ce que Monet a voulu montrer à travers ses peintures? Bien, ce qui change, c'est la lumière du jour. Il s'est simplement placé devant cette cathédrale à différents moments de la journée pour capter la lumière de façon différente. Et c'est bien le but de ces peintres impressionnistes, c'était de capter la lumière. Autrement dit, ici, le peintre réussit à faire comprendre à ses contemporains que regarder un paysage, un monument comme une cathédrale, n'est pas la même chose selon l'heure du jour. On ne voit pas la même chose selon l'heure du jour. Pourtant, c'est toujours la même cathédrale, mais on ne voit pas la même chose. Quelle solution l'auteur des Hébreux propose pour remotiver les chrétiens ici? Eh bien, il va faire la même chose avec Christ. Vous enlevez la cathédrale, vous mettez Christ à la place, et il va dépeindre Christ à différentes heures du jour, à différents moments de sa vie, selon différentes références culturelles. Et il va montrer Christ sous tous les angles possibles. Au début des Hébreux, il le compare, il montre comment il est supérieur aux anges. Un peu plus loin, il montre comment il est supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament, etc., etc. Pourquoi appelle-t-on ce livre l'Épître aux Hébreux? Mais c'est justement parce qu'en fait, la lumière, le soleil que choisit l'auteur pour décrire Christ dans l'Épître aux Hébreux, c'est celui de l'Ancien Testament. L'auteur va sans cesse se référer au premier livre de l'Ancien Testament, à tout ce qu'on apprend sur la place, l'organisation de la religion juive dans l'Ancien Testament, et à partir de cette grille de lecture, il va nous faire découvrir Christ et ce que l'Ancien Testament nous apprend sur Christ avant l'heure. Alors, vous avez compris, l'objectif de cette étude, de ce moment ensemble, c'est vraiment de comprendre comment l'auteur de ce passage stimule-t-il des personnes lassées par le christianisme de ne pas abandonner. On pourrait transformer ça différemment. Il y a un terme qui est très à la mode en ce moment, c'est le terme de développement durable. Je ne sais pas si ça vous a marqué depuis 5-10 ans. Le terme de développement durable, c'est l'idée qu'il faut faire attention dans la manière dont on exploite les ressources de la planète, de telle sorte qu'on n'use pas ses ressources et qu'il en reste pour les enfants plus tard. Eh bien, ce que l'auteur des Hébreux explique ici, c'est comment bâtir une foi durable. Une foi qui ne soit pas une étincelle à un moment donné, mais qui soit pour toute la vie et qui continue jusqu'à la fin. Alors, il y a trois choses que j'aimerais voir avec vous. La première, c'est tout d'abord que ce passage nous montre qu'on peut s'approcher de Dieu avec la peur au ventre, mais qu'on peut aussi s'approcher de Dieu avec une totale confiance, et que dans tous les cas, ce qui compte, c'est surtout de s'approcher de Dieu avec envie. Premièrement, s'approcher de Dieu avec la peur au ventre. Dans les versets 18 à 21, l'auteur nous donne une description assez particulière où on a l'impression qu'il dépeint là une religion terrible, une religion qui fait peur, qui est effrayante. Il y a une description assez incroyable d'un spectacle son et lumière, mais qui n'est pas là pour faire plaisir. C'est un spectacle son et lumière qui est là pour épouvanter, pour faire peur. À tel point que même les personnes et même les bêtes, le bétail qui approchait la montagne où Dieu se révélait à Moïse, étaient menacés de peine de mort. Alors, à quoi fait référence ce passage? En le lisant dans un premier temps, je suis assez émerveillé par l'ambiance. On a vraiment l'impression d'être dans un film avec des effets spéciaux extraordinaires à la Hollywood. Et en fait, il est question ici d'une situation qui existe et qui est tirée directement de l'Ancien Testament. Regardez, il est fait référence, bien sûr, de Moïse. Donc c'est un événement qui a eu lieu du vivant de Moïse. Il est fait référence au désert. Donc c'était après la sortie d'Égypte et avant l'entrée dans la terre promise. Et puis, il est question aussi d'un feu, de sombres nuées, de ténèbres, d'ouragans, de trompettes, d'une voix terrible et d'une réalité. Une réalité, c'est-à-dire quelque chose qui pouvait être touché. Donc ce passage décrit bien un événement qui a eu lieu, qui est décrit comme ayant été vécu dans l'Ancien Testament. Et dans d'autres versions que celle-ci, au lieu du mot « réalité », il est simplement utilisé le mot « montagne ». En fait, ce passage nous décrit l'événement particulier où Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Et cet événement est décrit ici d'une manière, sous un angle tout à fait particulier. Ce qui ressort, c'est vraiment l'aspect effrayant, terrible, il y a des mots assez clairs qui insistent là-dessus. Autrement dit, quand Moïse a reçu les 10 commandements, eh bien, il les a reçus dans une atmosphère qui inspirait la crainte, mais dans une atmosphère qui révélait aussi la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, sa grandeur, et le fait que, certes, il acceptait de se révéler aux hommes, mais c'était certainement pas à n'importe quelle condition. Le passage ne le dit pas ici, le passage mentionne simplement que Moïse avait peur. Pourtant, lorsqu'on va voir dans Exode 19 et 20, on réalise qu'il y a une seule personne qui a eu le droit de monter sur la montagne pour récupérer les tables de la loi, c'est Moïse. Or, Moïse, ici, en fait, cet événement, le fait qu'il monte sur la montagne, c'est occulté. L'auteur insiste seulement sur le fait que Moïse, comme le peuple, était épouvanté et tremblant. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi l'auteur a choisi d'occulter la place de Moïse ici. Je crois qu'on peut le comprendre de la manière suivante. Certes, seul Moïse a pu monter et récupérer les tables de la loi, mais si lui-même il était effrayé, tremblant, eh bien, ça permet de mieux souligner à quel point Moïse a été utilisé par Dieu comme un intermédiaire, mais comme n'importe quel homme ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu de manière désinvolte, de manière libre et de manière toute simple. Que nous dit ce passage pour nous-mêmes ? Eh bien, ce passage nous dit que les exigences de Dieu envers moi, envers toi, envers tout homme, sont tellement élevées qu'elles ne sont pas atteignables et que personne ne peut les atteindre. Les Israélites pouvaient tout à fait s'approcher de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y avait entre Dieu et eux ? Il y avait la loi. Il y avait les exigences de Dieu pour venir vers lui. Dans l'Ancien Testament, les Juifs pouvaient s'approcher de Dieu à condition de sacrifier du bétail, à condition de respecter ses exigences, etc., etc. Bref, de faire ce qui plaisait à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Et pour le coup, c'était une manière de s'approcher de Dieu avec la peur au ventre, toujours dans la crainte de lui déplaire. Par conséquent, dans la deuxième partie de ce passage, il est question de s'approcher de Dieu avec une totale confiance. Dans les versets 22 à 24, nous avons une liste de tout ce qu'un chrétien reçoit lorsqu'il s'approche de Dieu. Et il y a un véritable contraste avec le passage précédent. C'est vraiment le jour et la nuit. Le début du passage commence bien, verset 18, « Vous ne vous êtes pas approché d'eux, mais voilà, au contraire, verset 22, de quoi vous vous êtes approchés. » Alors, de quoi ils se sont approchés ? Rapidement, je peux faire une petite liste, là. Ils se sont approchés, premièrement, non pas du mont Sinaï, mais de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges, en fait. Quelle différence d'atmosphère ! Ici, il s'agit d'une montagne, sur laquelle se trouve une cité. Cette cité, elle est céleste. Et en plus, qu'est-ce qui se passe dans cette cité? Elle est habitée. Il y a des anges qui font la fête. Ça fait pas envie, ça, d'aller dans cette cité où, en fait, ça va être la fête pour l'éternité. Pendant longtemps, j'ai eu très peur de ce verset de l'Apocalypse qui dit que « À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Et je me voyais rester comme ça pour l'éternité, sans bouger. Et je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Après, j'ai compris que, certes, pourvu que Dieu soit là, c'est formidable. En réalité, ce sera tellement formidable qu'il faut beaucoup d'images pour exprimer ce que sera le ciel. Et là, on a une de ces images. Ça va être la fête. Ça va être la joie. Ça va être extraordinaire. Deuxième privilège, non seulement on s'est aussi approché de l'assemblée des fils premier-né de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. L'assemblée, c'est un terme dans le Nouveau Testament qui fait simplement référence à l'Église, Ecclésia. Autrement dit, lorsque tu t'es approché de Dieu, tu es devenu chrétien, désormais tu fais partie d'un peuple, tu n'es plus seul. Fini la solitude du désert. On s'est approché aussi de Dieu, juge de tous les hommes. Et là aussi, on voit un contraste. Un juge, c'est quelqu'un, franchement, je ne suis pas fan de rencontrer un juge tous les jours et d'aller dans sa présence. Mais là, ce juge-là, eh bien, on peut s'approcher de lui. Et en plus, c'est le juge de tous les hommes. Le contraste est assez fort avec la première partie, où là, il s'agit d'un Dieu qui est terrifiant, qui est terrible, qui fait peur. Là, il s'agit d'un juge qui est accessible, mais qui... vers lequel on peut venir. Et on va voir un peu plus loin pourquoi. Vous êtes approchés également des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Autrement dit, on peut comprendre ça de manière différente. Soit c'est tous les juifs pieux de l'Ancien Testament, ou bien l'ensemble des fidèles qui ont terminé leur parcours sur terre. Et puis, dernièrement, vous êtes approchés de Jésus. Et là, on a deux informations sur Jésus. La première, c'est que Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle. Vous avez vu comment se termine la première partie du verset 18 au 21 ? Ça se termine par Moïse, celui qui est monté chercher les tables de la loi, mais qui était épouvanté et tout tremblant. Et comment se termine la deuxième partie? Elle se termine par Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Jésus est allé, lui, sur la montagne, rencontrer Dieu, donner sa vie pour que nous puissions être en relation avec Dieu. Et contrairement à Moïse, qui était épouvanté et tout tremblant, Christ, lui, a été jusqu'à l'angoisse et jusqu'à rendre l'esprit, jusqu'à mourir pour que nous puissions venir près de Dieu. Et le contraste est fort, c'est que dans la première partie, on voit que Dieu se montre comme étant complètement inatteignable. Et dans la deuxième partie, on réalise que Christ, lui, est venu sur terre pour que nous puissions atteindre Dieu. Ainsi, on a un contraste entre l'ancienne alliance, fondée sur la loi, et la nouvelle alliance, fondée sur la foi dans ce que Christ a fait. On a donc un véritable renversement des apparences. D'un côté, la première partie décrit un univers qui va être terrestre, que l'on peut toucher. Dans la deuxième partie, il s'agit d'un univers qui est céleste, qui est invisible, mais qui pour autant a des conséquences sur Terre. De la même manière que le premier univers est un univers qui est temporel, que le deuxième univers est plutôt éternel, il y a des conséquences sur Terre. Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que si je continue comme ça, on pourrait dire que ce que je veux montrer, c'est que être chrétien, ça signifie simplement espérer une cité céleste, spirituelle, espérer un jour faire la fête peut-être, sans forcément qu'il y ait des conséquences pour aujourd'hui. En fait, notre manière d'appréhender notre avenir a des conséquences sur notre présent. Si notre vie se contente de s'inquiéter de ce qui va se passer aujourd'hui ou demain ou jusqu'à la date de notre mort, nous n'allons pas vivre de la même manière que si nous considérons que notre vie continue après notre mort. Autrement dit, si ton système de valeurs n'est pas simplement limité à la durée de ta vie sur Terre, mais à une portée éternelle, ça va avoir des conséquences sur ton comportement. Concrètement, la confiance que tu vas mettre et les choix que tu vas faire vont être différents. Tes actions vont être impactées. Si je sais que j'ai une espérance céleste, alors je vais faire des choix qui vont être basés sur cette espérance et je vais les faire aussi dans la confiance que ce que je fais et que ce que je vis sur Terre n'est pas en vain et ne me mène pas nulle part. Enfin, et c'est la troisième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que si s'approcher de Dieu peut se faire avec la peur au ventre, si s'approcher de Dieu peut se faire avec la confiance dans ce Dieu qui est accessible, il faut cependant souligner que s'approcher de Dieu nécessite de l'envie. S'approcher de Dieu nécessite de l'envie, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Dans ce passage, en fait, l'auteur nous lance 5 défis. Vous avez peut-être entendu parler de Hervé Renard. Alors, c'est pas Monsieur Marchand. Hervé Renard, c'est l'entraîneur du club de foot de Sochaux. D'accord? Sa particularité, et la particularité d'Hervé Renard, c'est qu'il est devenu entraîneur de Sochaux à la fin de l'année dernière. Et Ral, si je me trompe, tu me compléteras. Il est devenu entraîneur de foot de Sochaux à la fin de l'année dernière parce que dans la dizaine de matchs que Sochaux avait joué depuis le début du championnat de Ligue 1, Sochaux n'avait gagné, je crois, que 2 matchs. Donc ils étaient derniers du championnat avec un nombre de points qui n'avait jamais été vu dans le championnat français. Une catastrophe. C'était à peu près ça? Ça, c'est la fin de l'histoire. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que donc, ce gars est arrivé pour entraîner l'équipe de Sochaux, avec une mission simple, essayer de faire en sorte que Sochaux ne descende pas en Ligue 2. Alors vendredi soir, on a appris qu'il a échoué, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, depuis son arrivée, Sochaux n'avait perdu quasiment aucun match et a terminé, en fait, sans compter les premiers matchs qui étaient catastrophiques, Sochaux aurait été la cinquième équipe du championnat de France. Autrement dit, cet entraîneur, il a réussi à remotiver des joueurs qui avaient tout perdu depuis le début du championnat, qui avaient envie de partir en vacances anticipées longtemps avant la fin du championnat. Et il leur a donné la motivation pour se battre et pour ne plus perdre des matchs de manière consécutive. Et c'est ce que fait l'auteur des Hébreux ici. Pour être motivé pour quelque chose, il faut avoir des défis, il faut avoir des enjeux qui nous motivent. Ici, il y a 5 défis. Le premier défi, c'est celui d'être actif. Deuxième défi, être à l'écoute. Troisième défi, être reconnaissant. Quatrième, servir Dieu. Et enfin, craindre Dieu. Alors le premier défi, être actif. Facile à comprendre. Il y a une expression qui revient 5 fois dans le passage qu'on a lu. Vous ne vous êtes pas approché, mais vous vous êtes approché. 4 fois. Vous vous êtes approché, vous vous êtes approché, vous vous êtes approché. Pourquoi cette répétition? Bien, vous êtes. Ça veut dire qu'il y a une démarche active. Ça veut dire qu'il y a un acte volontaire, qu'il y a une action dans sa tête qui fait bouger le corps. Mais pourquoi vous êtes approché de Dieu? Et tout simplement parce que Dieu s'est rendu accessible. Dieu est présent et Dieu est vivant. Le passage nous dit aussi que Dieu est un juge de tous les hommes et qu'il est le sauveur par Jésus-Christ. À partir du moment où tu sais que Dieu est accessible, eh bien, ton esprit se dit que tiens, il est possible que je m'approche de lui. Deuxième défi, être à l'écoute. Au verset 25, il y a un avertissement. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. En fait, dans le livre des Hébreux, il y a 5 avertissements, et ici il s'agit du 5e. Il est question aussi de ceux qui refusèrent d'entendre. Il est question du fait que ça va être compliqué d'échapper à celui qui parle si on ne l'écoute pas. Qui est celui qui parle? C'est Dieu qui nous parle. Et comment est-ce qu'il nous parle? Regardez verset 24. J'ai découvert un truc assez surprenant. Verset 24, vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Comment Dieu nous parle-t-il aujourd'hui? Il nous parle par son sang. Et ça mérite explication. Dieu nous parle par son sang, et il parle par son sang, tout d'abord à lui-même. Le sang de Christ parle au Père. Le sang de Christ dit au Père que justice a été faite et que jour après jour, personne ne peut plus condamner un enfant de Dieu. Le sang parle à Satan, à l'accusateur, à celui qui veut à tout prix nous éloigner de Dieu. Le sang parle du fait que Christ a vaincu Satan, du fait que nous sommes arrachés à son pouvoir, et le sang proclame que nous ne sommes plus captifs de nos passions, de nos envies et du péché, mais que nous sommes libres. Et on retrouve cette expression plusieurs fois, mais notamment dans Apocalypse 12, 11, qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la crainte de la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Et troisièmement, le sang parle, certes à Dieu, le Père, certes à Satan, mais le sang parle aussi à notre cœur. Et qu'est-ce que ce sang nous dit? Qu'est-ce que le sang dit à notre cœur? Eh bien, il nous dit que chaque jour, nous appartenons à Dieu. Chaque jour, notre Dieu veille sur nous parce que son Fils a donné sa vie pour nous, son sang a coulé pour sceller le fait que nous lui appartenions. Ainsi, ce sang nous dit que Dieu ne s'est pas contenté de nous parler par un beau discours, mais Dieu nous a parlé par une action. Dieu nous a parlé par le don de son Fils, par le sacrifice de son Fils. Ainsi, le défi, c'est d'écouter celui qui parle par son sang. Et écouter Dieu, ça nécessite aussi une action. Écouter, c'est pas juste entendre. Écouter, c'est être actif et prêter attention à ce qui est dit. Ainsi, à partir du moment où l'auteur nous explique que le sang de Christ parle, il nous met en face d'une responsabilité. Alors, ta situation peut être... tu peux être dans différentes situations ce matin. Tu peux être dans la situation où tu découvres que le sang de Christ parle, et peut-être tu ne t'es encore jamais approché de Dieu, parce que tu ne savais pas et parce que tu étais indifférent à cette réalité. Et ici, Dieu te lance un défi, à savoir, viens, approche-toi de lui pour lui dire que tu as compris que son sang a coulé pour toi. Mais tu peux aussi être dans la situation où tu t'es déjà approché, où tu as déjà compris et accepté pour toi ce que ce sang signifiait, le fait que ce sang pouvait te parler et parler à ton cœur. Mais peut-être tu es dans la situation où tu es lassé, ou comme les Hébreux ici, tu es devenu indifférent à cette vérité, et où pour toi ça n'a plus vraiment d'impact sur ton cœur. À l'inverse, tu peux aussi t'être déjà approché et être conscient de ce que ce sang a fait pour toi, mais finalement tu n'es pas vraiment dans une situation différente d'une personne qui s'est lassée et qui trouve que ce sang aujourd'hui ne dit plus grand-chose. En fait, nous sommes tous concernés par ce passage, parce que tous, nous avons besoin de réaliser encore et encore ce que signifie que Dieu parle, ce que signifie que le sang de Christ nous parle. Lorsque Ésaü, le frère de Jacob, qui est cité juste dans le passage précédent, est revenu de la chasse un soir chez lui. Il avait tellement faim, son frère cuisinait tellement bien, qu'il a préféré troquer son droit à l'héritage du père contre un bon repas, plutôt que de maintenir ce droit à l'héritage. Mais certainement qu'il n'avait pas réalisé, le soir où il l'a fait, l'implication de ce qu'il faisait. Pour lui, c'était juste parce que c'était un moyen d'obtenir quelque chose de son frère. Eh bien, de la même manière, nous pouvons aussi être dans un contexte où, comme Ésaü, on entend parler de Dieu, on est baigné un petit peu dans une atmosphère où la Bible est ouverte, etc. Mais finalement, au fil du temps, il y a une véritable lassitude qui s'installe. Et il y a une véritable habitude par rapport à notre confrontation à Dieu qui s'installe. Que tu te sois jamais approché de lui, ou que tu te sois déjà approché de lui, la solution est la même. Et c'est ce à quoi j'aspire, c'est de demander à Dieu, et je veux demander à Dieu, qu'il se révèle à moi d'une manière nouvelle, qu'il se révèle à moi d'une manière différente. Il y a une histoire, je crois que je l'ai jamais racontée, que j'ai vécue il y a 15 ans. J'étais une période de ma vie où la vie n'avait plus de goût pour moi, où je comprenais pas ce que je faisais sur Terre et je voyais pas vraiment l'intérêt de là où j'allais. Et j'ai fait cette prière à Dieu qu'au cours de l'été que j'allais vivre, je puisse vivre chaque jour une chose différente. Et je me suis mis à prier cette prière, mais sincèrement, et parce que je sentais que j'avais besoin justement de reprendre goût à la vie. Et il m'arrivait un été, comme jamais j'ai vécu dans ma vie, qui m'a emmené jusqu'en Californie, à voyager à travers les États-Unis, etc. Et avec plein d'expériences incroyables, où finalement j'ai reconnu que Dieu avait pris soin de moi au cours de cet été pour me faire vivre chaque jour une nouvelle chose qui me redonne envie de découvrir la vie, de vivre la vie, de chanter la vie, etc. Vous connaissez le fait est que quand on est chrétien, c'est la même chose. On ne peut pas se permettre de se contenter d'une routine, tous les jours ouvrir notre Bible, chercher à s'approcher de lui. On a besoin aussi qu'il se révèle à nous d'une manière nouvelle. Et ça, c'est la prière que je vous encourage à faire et à lui présenter pour toute cette semaine et pour l'été qui vient. Que Dieu se révèle à toi d'une manière nouvelle telle qu'il ne l'a jamais fait encore dans ta vie. Les troisième, quatrième et cinquième défis vont ensemble. Être reconnaissant, servir Dieu, craindre Dieu. Il s'appuie en fait sur ces deux derniers versets du passage. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants, servons Dieu d'une manière qui nous soit agréable, avec soumission et respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Alors je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais vous comprenez bien que le défi qui nous est laissé ici, c'est que si ce que Dieu nous propose, c'est inébranlable, si ce que Dieu nous propose, c'est une cité céleste où on fera la fête, et d'ailleurs c'est au présent, donc on peut déjà faire la fête aujourd'hui, si c'est tellement extraordinaire, eh bien, alors nous ne pouvons que être reconnaissants, nous ne pouvons que avoir envie de le servir et de le craindre. Et le craindre ici, vous voyez la définition qui est proposée, la crainte de Dieu ici, c'est la soumission et le respect. Waouh, qu'est-ce qu'il est grand et qu'est-ce que j'ai besoin de baisser la tête devant lui. Quelle différence avec cette crainte du premier passage, qui était une crainte de ne pas respecter la loi, une crainte de toucher la montagne, de peur d'être foudroyé sur place. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui et à tout prix le fuir. La crainte de Dieu, c'est avant tout être plein de respect, d'émerveillement pour ce qu'il a fait et vouloir l'aimer de tout notre cœur. Alors, comment l'auteur de ce passage stimule-t-il des personnes qui sont lassées par le christianisme de continuer à vivre une vie chrétienne? D'abord, il rappelle qui nous sommes. Il rappelle que nous sommes capables de nous approcher de Dieu. Il nous rappelle que nous sommes capables de l'entendre. Ce sont des super pouvoirs que nous avons reçus dès notre naissance, qui sont donnés à tous. Mais il rappelle aussi qui est Christ. Et Christ est celui qui nous a rendus capables de nous approcher du Dieu inaccessible, exigeant et terrifiant, mais qui est un juste patient. Et les cinq défis qui nous sont laissés ici, c'est donc d'être actif, de l'écouter, d'être reconnaissant, de le servir et de le craindre sainement. Et si, en effet, Hervé Renard n'a pas réussi à aller au bout de son défi, puisque le dernier match de la saison a été perdu par Sochaux, et malheureusement, Sochaux descend en Ligue 2 à cause de ce dernier match, la réalité, c'est que nous, pour le match que nous menons pour rester près de Dieu, pour continuer à nous approcher de Dieu, nous bénéficions de toute la palette de bénédictions qu'il nous a données lorsqu'on s'est approché de lui la première fois. Et que nous puissions être renouvelés, encouragés à entretenir cette réalité pour continuer à aller de l'avant avec lui et pour du début jusqu'à la fin de notre vie, ne pas être dans une situation où nous n'avons plus envie d'entendre parler de lui.